À l'approche des fêtes de fin d'année, on aimerait ne pas y penser, évidemment, avoir l'esprit ailleurs. C'est pourtant le moment où la menace terroriste est la plus élevée. Alors ce matin, avec mon invité, on fait le point sur le phénomène de radicalisation des jeunes. Comment la détecter? Peut-on la prévenir? Voilà les questions que nous nous poserons. Bonjour Séraphin Alava.
Bonjour.
Vous êtes professeur des universités à Toulouse de Jean Jaurès et membre donc de la chaire sur la prévention des radicalisations et de l'extrémisme violent à l'UNESCO. Je m'arrête tout de suite sur le pluriel des radicalisations. Il y a donc plusieurs formes de radicalisation.
Oui, il y a plusieurs formes et plusieurs types de radicalisation. On a souvent tendance à résumer radicalisation par islamisme violent, qui est une des formes de radicalisation, mais quand on prend un peu de recul dans le monde, on se rend compte que la radicalisation politique existe, que des radicalisations individuelles existent, que des radicalisations sociales sont présentes.
D'accord, donc plusieurs formes. Alors ce matin, on s'attardera tout de même sur la radicalisation d'ordre religieuse, la radicalisation, vous l'avez dit, islamiste, et ceci puisque fin novembre, c'est ça qui m'a donné l'idée de cet entretien, s'est tenu un séminaire, c'était au ministère de l'Intérieur. Au cours de ce séminaire, le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, a demandé au préfet, je le cite, de combattre l'islamisme et le communautarisme. Je vous demande, a-t-il dit, d'en faire une mission prioritaire et de la garder invariablement en tête. Est-ce qu'on peut faire un point sur la situation, Séraphin Alava? On en est où de la menace islamiste aujourd'hui?
Alors, la menace islamiste en France et en Europe est toujours forte. Malgré la défaite de Daesh sur les terrains d'Irak et de Syrie, on assiste aujourd'hui à un redéploiement des forces de l'islamisme radical. Et la France, comme beaucoup d'autres pays, a été très touchée et doit se prévenir de dangers qui peuvent arriver.
Et les dangers aujourd'hui, ils peuvent venir de chez nous, de l'intérieur, hein?
Alors, ils arrivent de l'intérieur parce que là, depuis plusieurs années, on s'est rendu compte que le terrorisme n'est pas un terrorisme étranger. Ce ne sont pas soldats, des combattants étrangers qui viennent en France. Ce sont des Français qui, par un phénomène de radicalisation, vont choisir le passage à la violence extrême.
Et là, à l'approche des fêtes, est-ce que le ministre demande au préfet d'être sur le qui-vive? Est-ce que c'est le cas? Comment l'est-on sur le qui-vive?
Alors, l'État est celui qui vive avec quatre actions principales. D'abord, la mobilisation des services de police et des services de renseignement qui suivent les personnes qui sont inscrites à un fichier des personnes radicalisées. Deuxièmement, en assurant la sécurité des grands événements publics, et les fêtes de Noël sont des grands événements publics. Et troisièmement, en construisant en prévention primaire et secondaire des outils pour faire que les jeunes ne basculent pas.
Combattre l'islamisme et le communautarisme, ce sont les mots de Christophe Castaner, c'est ça l'ennemi, le communautarisme, l'islamisme?
Alors, l'islamisme radical est à l'évidence un ennemi. Le communautarisme, c'est un mot qu'on n'arrive pas très bien à définir. Je n'ai pas été très heureux qu'il utilise ce terme, que le ministre utilise ce terme. Pourquoi? Parce que derrière, il y a le mot communauté. Et il faut rappeler que une culture et une culture nationale se construit à partir de l'accord de différentes communautés. Il est important de ne pas stigmatiser les communautés qui peuvent avoir et leur religion, et leurs coutumes, et leur façon de vivre. Et donc, je prends souvent l'exemple, et on est à Toulouse, ici, on est au pays de la chocolatine et pas du pain au chocolat, et je vois pas comment quelqu'un viendrait m'imposer de dire pain au chocolat si j'ai envie de dire chocolatine.
D'accord, ça veut dire quoi? Que plusieurs communautés peuvent coexister?
Oui, le principe de la nation, c'est de faire coexister plusieurs communautés régionales, de langues différentes, de cultures différentes, dans un ciment commun qui s'appelle la laïcité et qui s'appelle les valeurs de la République. Et je crois que la communauté musulmane est dans cette idée et dans ce mouvement. Ce sont des personnes violentes qui sortent de la communauté musulmane, qui, sous prétexte de religion, mais en fait, c'est des positionnements politiques, vont rompre avec ce ciment national.
Alors, vous avez parlé de Toulouse et de la chocolatine. De fait, on va aller en Haute-Garonne, puisque la Haute-Garonne fait partie des 13 départements depuis février 2018, je crois, qui font l'objet d'un plan ministériel de lutte contre l'islamisme. La Haute-Garonne a été choisie, comme les autres départements, sur deux critères, je crois, le nombre de départs de djihadistes vers la zone syro-irakienne et le fameux repli communautaire. J'ai bien compris que vous n'aimiez pas ce mot. Il dit quoi, ce plan Séraphin Alava?
Ce plan, c'est un ensemble de moyens et à la fois aussi de coordination. Le préfet a en charge de traiter l'ensemble des appels au numéro vert de signalement, de coordonner les structures de l'État pour prévenir et assurer la sécurité des Français durant tous les événements.
Un numéro vert, et ça suffit pour lutter contre la radicalisation?
Non, ça permet de repérer et de détecter un certain nombre de personnes. Il faut aussi renforcer les services de police et de renseignement et une coordination entre ces services et l'ensemble des services de l'État.
Un numéro vert que compose qui? C'est de la délation un peu organisée, c'est ça en fait dont on parle?
Non, c'est pas de la délation. Quand on répond au numéro vert d'alerte enlèvement, personne n'a l'idée que l'on va faire de la délation. Ils ont vraiment le sentiment de protéger les enfants. Quand on va aller dénoncer des crimes de pédophilie, personne n'a le sentiment d'avoir de la délation. Donc c'est simplement de la sécurité, de la protection. Il faut savoir que quand on fait un signalement, dans 90% des cas, ce ne sont pas des personnes qui sont dangereuses, mais des personnes que l'on peut aider, avec lesquelles on peut dialoguer et parler pour éviter qu'elles tombent dans l'islamisme radical et donc leur sauver un petit peu la mise et en même temps protéger les autres.
C'est ce numéro vert qu'auraient pu composer, par exemple, les collègues de cette personne de la préfecture de police à Paris qui a commis l'irréparable. Ces personnes avaient certaines, en tout cas, imaginé qu'ils pouvaient être radicalisés, c'est ça?
Oui, souvent on se rend compte ou on doute d'une personne par un certain nombre de comportements. Il faut d'abord en parler à ses collègues, il faut en parler à sa hiérarchie et en même temps, si on est inquiet, de façon totalement anonyme, on peut faire un signalement qui va être traité par des spécialistes. Il ne faut pas s'imaginer que derrière le numéro d'appel, il n'y a que des policiers et que des espions. Il y a des psychologues, il y a des éducateurs qui sont spécialistes du domaine et qui savent très bien repérer ce qui peut paraître dangereux et ce qui ne l'est pas.
Alors, éducateur, vous l'êtes d'une certaine manière, hein, puisque vous êtes professeur des universités, très engagé sur la lutte contre l'islamisme et surtout sur sa prévention. Un jeune qui se radicalise, Séraphin Alava, ça ressemble à quoi?
Alors, un jeune qui se radicalise, c'est un jeune qui change de comportement et qui change de discours, qui va peu à peu s'isoler de groupes de sa communauté ou de son groupe au collège ou au lycée et qui va progressivement rentrer dans un discours qui va se cristalliser, qui va accepter moins la contradiction, qui va donc devenir radical et qui va progressivement s'isoler. Il construit progressivement un « nous » et un « eux ». Et ce « eux », qui est le reste de la communauté, va être progressivement transformé non pas en une altérité, il est normal que l'autre soit différent de nous, mais en un élément dangereux qui menace sa propre liberté d'opinion.
Alors, on observe parfois une porosité entre la délinquance et la radicalisation. C'est pas forcément le radicalisé n'est pas forcément une personne qui a toujours eu une pratique religieuse très démonstrative, je crois, hein.
Oui. Alors, il y a, on le sait dans les chiffres, un nombre assez important de convertis, et donc qui viennent à la religion musulmane au cours d'un mouvement de radicalisation. On a vu des catholiques se convertir à l'islam, des personnes d'obéissance juive se convertir. Donc on a ça. En même temps, on sait que la connaissance et la maîtrise de sa foi est un élément protecteur contre la radicalisation. Mmh. Donc ça, les études l'ont très bien montré. Ce sont souvent des personnes qui ont, entre guillemets, une foi assez fragile.
Mmh. Et Séraphin Alava, on parle avec vous ce matin de radicalisation, celle des jeunes notamment. Je rappelle à ceux qui nous rejoindraient hein, que vous êtes membre de la chaire sur la prévention des radicalisations et de l'extrémisme violent à l'UNESCO. Comment est-ce qu'on lutte contre la radicalisation, contre l'islamisme, sans que cela soit interprété comme une guerre contre l'islam? C'est ça l'écueil de...
Oui, je crois que c'est vraiment l'Occident qui est dans cette idée-là. Hein. Je prends la formule de l'ensemble des pays du monde arabe qui luttent contre ça. Hein. Le terrorisme n'a pas de religion ni d'identité. Donc quand on lutte contre l'islamisme, on lutte contre le terrorisme. Et en luttant contre le terrorisme, on ne l'associe pas à une religion. Moi, je considère que cette radicalisation est d'abord politique, même si elle a un discours et un discours religieux.
Il faut dénier le caractère religieux à cette forme de radicalisme, c'est ça ?
Elle n'a rien de religieux. Elle est une dérive violente et extrémiste d'une pensée qui... s'associe à un discours fondamentaliste radical.
Alors vous m'avez dit en préparant cet entretien qu'il fallait profiter des périodes où ça allait mieux sur le territoire. Bon, aujourd'hui on a du mal à dire que ça va mieux sur le territoire, mais c'est d'un autre point de vue, pour mettre du ciment entre les communautés. C'est aussi votre façon de damer le pion à ce mot que vous n'aimez pas beaucoup, le communautarisme. Comment on met du ciment entre les communautés? C'est ce que vous faites, je crois, au sein de votre association. Ça s'appelle les militants des savoirs. Vous pouvez nous dire un mot de ce qu'il convient de faire pour mettre du ciment. Soyons les bâtisseurs de ces...
Il faut, à mon avis, travailler sur trois axes. Le premier axe, c'est la rencontre de l'autre. Et il ne faut pas parce qu'on est dans une situation de danger, s'isoler, s'enfermer dans notre communauté, dans notre orientation. Il faut s'ouvrir à l'autre. Il faut s'ouvrir à l'autre et montrer que nous sommes tous ensemble d'une même dimension, c'est la dimension humaine.
L'autre, le différent, hein.
Voilà, voilà. Et donc, il faut travailler avec eux, mettre en place des activités, participer à des activités communes, augmenter le dialogue interreligieux pour renforcer ce ciment qui est le ciment commun, qui est celui de la nation et celui de l'humanité. Deuxièmement, il faut ensemble mobiliser des ressources pour aider les jeunes qui, dans la période de l'adolescence, peuvent être en situation de crise, ont besoin de voir que les choses changent vite, ne supporte pas notre façon, nous, adultes, de gérer le temps et d'attendre. Et il faut leur donner les moyens d'agir et de s'engager. L'engagement n'est pas seulement radical. Un engagement citoyen pour les jeunes est quelque chose de très positif. Donc il faut favoriser toutes les sources d'engagement.
Éviter le repli identitaire, en quelque sorte.
Éviter le repli identitaire, mais aussi éviter les situations dans lesquelles on peut penser que pour construire son identité, il faut exclure l'identité de l'autre. Mmh. On n'a pas besoin, si on a envie d'être musulman, on n'a pas besoin de dénier aux autres personnes d'avoir une foi ou de ne pas avoir une foi. C'est tout à fait compatible et c'est le principe même de la laïcité.
Troisième engagement, vous m'avez dit ?
Et troisième engagement, il faut aider les familles à pouvoir comprendre ces phénomènes de radicalisation. Les familles sont un petit peu perdues parce qu'elles perdent le lien avec leurs jeunes et elles ne savent pas comment agir. Donc il faut développer des outils pour former, informer les familles de ces phénomènes-là.
Merci beaucoup Séraphin Alava. Je rappelle que vous êtes professeur des universités à Toulouse de Jean Jaurès et donc membre de la chaire sur la prévention des radicalisations et de l'extrémisme violent à l'UNESCO. Nous avons vu ce matin ce thème effectivement assez peu porteur à l'approche des fêtes de fin d'année, mais la menace, on l'a dit, est tenace à l'approche des fêtes justement. Merci à vous.